point 11 de l'Évangile de Christ, écrit le grand apôtre à l'église de Rome. Car, dit-il, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Qu'est-ce que l'Évangile de Christ et comment est-ce qu'une puissance de Dieu pour le salut? Voici quelques-unes des questions que nous voulons traiter en étudiant les livres de la Bible. Au cours de cette émission, nous examinerons les lettres écrites par l'apôtre Paul. Ces programmes vous sont offerts pour favoriser la connaissance chrétienne dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous, par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et de nos amis de partout. Après quelques 2000 ans, pendant lesquels l'Évangile de Christ fut prêché, la question qui se pose, qu'est-ce que l'Évangile de Christ, semble inutile. Mais en réalité, en parlant aux gens, même à des chrétiens, j'ai découvert qu'ils ont une idée bien vague de ce qu'est l'Évangile de Christ. N'as-tu pas aussi fait cette remarque, Pierre?
Oui, je l'ai faite. Pourtant, je suis sûr qu'en étudiant les écrits de l'apôtre Paul, nous trouverons une réponse définitive à cette question et à d'autres concernant le christianisme.
En effet, j'en suis certain, Pierre, mais d'abord, j'aimerais avoir quelques renseignements sur les écrits de Paul. Ce sont donc des lettres.
Elles sont plus communément appelées des épîtres. Il y en a 14 en tout, dont quelques-unes sont adressées au groupe des premiers chrétiens, et d'autres à des chrétiens isolés, avec qui Paul fut un collaborateur dans l'œuvre du Seigneur.
Quel est l'objet des différentes lettres ou épîtres de Paul?
Elles varient selon les circonstances et les besoins spirituels de ceux auxquels elles furent adressées. Ce fut sans doute sous la providence divine que certaines circonstances et certains événements se produisirent parmi les premiers disciples de Christ. Paul dut leur rappeler dans ses lettres quelques points de vérité qui servirent aux besoins du peuple de Dieu à travers tout l'âge, vérité concernant la vie chrétienne et la coopération chrétienne qu'ils n'auraient pas observées.
Autrement dit, nous pouvons considérer les épîtres de Paul comme un supplément aux enseignements de Jésus et à ceux des apôtres.
Oui, et c'est encore une évidence de la merveilleuse harmonie de la Bible.
Pierre, tu disais que les lettres de Paul furent écrites pour aider les premiers disciples à régler leurs malentendus et à établir l'accord entre eux. Cite-nous quelques-unes de leurs difficultés.
Tu te souviens, Thomas, qu'au cours de notre étude du livre des Actes, nous avons vu qu'il y eut quelques difficultés dans l'Église primitive au sujet de l'admission des gentils dans les assemblées. Ce fut un problème, parce que les Juifs convertis insistaient pour que les gentils observent certains rites cérémoniaux de la loi mosaïque, tels que la circoncision. La lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome traite de ce sujet. Et c'est intentionnellement que Paul dit au premier chapitre, verset 16 de sa lettre aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. »
Autrement dit, il n'y avait pas besoin d'ajouter des cérémonies de toutes sortes à l'Évangile de Christ pour obtenir le salut. Mais pour apprécier pleinement cet argument, il est indispensable de savoir en quoi consiste l'Évangile de Christ. Ne crois-tu pas?
Bien sûr. Et puisqu'il n'y a aucun autre salut en dehors de l'Évangile de Christ, la question est d'autant plus importante. Le mot « Évangile » veut simplement dire « bonne nouvelle ».
Mais pourquoi la bonne nouvelle de Christ?
Thomas, j'aimerais te rappeler que le mot « Christ » dans le Nouveau Testament a la même signification que celui de « Messie » dans l'Ancien Testament. Au début de sa lettre, Paul utilise le mot « Évangile » en disant que la bonne nouvelle avait été annoncée par les saints prophètes de Dieu. Autrement dit, l'Évangile de Christ est le même message que celui proclamé par les prophètes, c'est-à-dire que Dieu enverra son Messie, un Christ qui d'abord rachètera le monde du péché et plus tard établira un gouvernement universel par lequel les bénédictions de vie acquises par son sang précieux seront dispensées à tout le monde.
Veux-tu dire que l'Évangile fut prêché au temps de l'Ancien Testament? Beaucoup pensent que la proclamation fut faite par l'ange qui dit au berger, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. »
Cela, Thomas, est vraiment l'Évangile, la bonne nouvelle concernant Christ. Jusque-là, le Messie n'avait été que promis, mais voici qu'il était né. ce fait glorieux constituait le sujet essentiel du message angélique. Le plan divin du salut est de ce fait entré dans une nouvelle phase. Le Rédempteur et Sauveur était venu. Pourtant, l'Évangile avait été annoncé bien avant cet événement, non pas à tout le monde, mais aux anciens serviteurs fidèles de Dieu. Paul le mentionne dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 8. Voudrais-tu lire ce qu'il dit ? Cela nous aidera.
Galates, chapitre 3, verset 8. Voilà, il est dit, « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Par toutes les nations seront bénies en toi. » Tu vois, Pierre, ce texte dit que l'Évangile avait été annoncé à Abraham.
Et as-tu remarqué comment Paul définit l'Évangile ?
C'était la première promesse faite à Abraham que, par sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. C'est un évangile d'une grande portée. Il nous donne l'assurance que par la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies.
Et Thomas, l'harmonie de ce passage avec toutes les promesses divines de l'Ancien Testament au sujet de la venue du Messie est révélée par le 16e verset du chapitre 3, qui dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ.
Cette merveilleuse promesse que Dieu fit à Abraham est une des premières promesses messianiques. La véritable postérité d'Abraham n'était pas ses descendants directs, mais Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, qui bénira toute l'humanité.
Les prophètes de l'Ancien Testament parlent très souvent de cette postérité. Il est appelé Shiloh, pacificateur, signifiant paix. Moïse le désigne comme un grand prophète qui donnera la vie au monde. Ésaïe l'appelle un merveilleux conseiller, un père éternel, un prince de la paix. À sa naissance, l'ange l'annonce comme sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Il est bon de réaliser que Dieu a promis des bénédictions pour toutes les familles de la terre par cette postérité d'Abraham, et que ce projet de bénédiction universelle ne soit pas restreint au cours des âges, puisqu'à la naissance de Jésus, l'ange dit que la bonne nouvelle était pour tout le peuple. Pourtant, une question se pose ici. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis la naissance de Jésus. Pourquoi les bénédictions promises n'ont-elles pas été répandues sur les millions qui ont existé ? La plupart n'ont jamais rien su de lui, et ils ont ignoré les desseins bienveillants de Dieu à leur égard. Y a-t-il une réponse à cette question ?
Oui, Thomas, il y en a une. L'apôtre Paul l'a fournie dans la dernière partie de ce troisième chapitre de sa lettre aux Galates. Ce sont les trois derniers versets. Voudrais-tu les lire, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Ils disent « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Tiens, ceci dit que les chrétiens, ceux qui ont revêtu Christ, sont aussi une part de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse.
C'est juste, Thomas. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Église, les appelés, participeront aux bénédictions de toutes les familles de la terre en qualité de roi avec Jésus dans son royaume, puisqu'ils font partie de la postérité d'Abraham.
Maintenant, je comprends pourquoi les bénédictions promises n'ont pas encore été répandues sur le monde. C'est parce que la postérité, selon la promesse par laquelle les bénédictions seront répandues, n'est pas encore complète.
Cela ne veut pas dire que le plan de Dieu pour le salut ait failli. Bien au contraire, il progresse vers sa consommation glorieuse pendant l'âge du royaume. Selon la réalisation du plan de l'Évangile, tous les hommes auront l'occasion d'obtenir le salut, donc la vie éternelle, ici, sur la terre, comme être humain.
Ce qui signifie, comme je le pense, que l'Évangile de Christ est réellement une bonne nouvelle, et que c'est par Christ et son Église que toutes les familles de la terre seront bénies.
En effet, Paul parle de la puissance de Dieu pour le salut qui opère par ou en harmonie avec cet Évangile glorieux. La toute-puissance de Dieu nous garantit l'accomplissement de ses promesses. Et nous pouvons être assurés que son dessein glorieux ne faillira jamais.
Pierre, Comment peut-on ne pas être d'accord avec ce que la Bible enseigne si clairement? Et l'article « Paul conseille l'Église » démontre que Dieu exercera sa puissance pour le bien-être de tous les hommes, en les ressuscitant des morts, afin qu'ils aient l'occasion d'obtenir le salut qu'il a promis. Chers amis, vous êtes invités à demander un exemplaire gratuit de cet article actuel. C'est le 7e d'une série qui examine tous les livres de la Bible. Celui-ci traite les 13 lettres écrites par Paul aux premiers chrétiens. Ces lettres sont remplies de renseignements et de promesses relatives au plan du salut divin. Vous y trouverez les réponses à beaucoup de questions. L'homme est-il immortel? Où serez-vous à la résurrection? Les impies seront-ils sauvés? Le baptême est-il indispensable pour être sauvé? Ce sont quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « Paul conseille l'Église ». Ainsi que les points suivants. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Qu'est-ce que le baptême chrétien? Etc. Il vous sera adressé gratuitement et franco. Cette émission d'études bibliques vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications mensuelles Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et nos amis de partout. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine à la même heure. Parlez-en à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.